Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est une véritable exclusivité que vous découvrez pour ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires. Cette musique-là a été enregistrée à Stockholm, en Suède, le 17 novembre 2018, mais ne sera officiellement disponible qu'en novembre. Ce cadeau nous a été offert par un bassiste de renommée internationale. Il s'appelle Ron Carter, il a 82 ans. Il est l'un des instrumentistes les plus productifs de sa génération, puisqu'il apparaît sur 2500 albums en tout genre, de Miles Davis à Tribe Called Quest. Le 20 juillet dernier, il se produisait avec son Foresight Quartet à 7 dans le sud-est de la France, et nous en avons profité pour aller à sa rencontre lors de cette dernière journée du festival Jazz à 7. Nous avons évoqué notamment son dernier album en date, The Brown Beatnik Tomes, conçu avec le poète et activiste Danny Simmons.
Something from my latest book. Actually, the whole thing's pretty much from my latest book, The Brown Beatnik Tomes. But before the book was published, Amiri Baraka died. And I tried to call the printer, and he said, well, it's too late to add that poem. But he came up with a solution. He put it on the inside cover of the book. So this is a tribute to Amiri Baraka. It's called For a Pistol. A poet is a pistol with an extended clip, bussing off rounds into the head of America. And brains ooze on streets where children once played, that are now the dog runs for bleeding rich history and heresy.
Ron Carter, merci d'être avec nous.
Thanks for the invitation.
The Brown Beatnik Tomes est à l'origine un livre que vous avez mis en musique. Comment s'est faite la rencontre avec l'auteur de cet ouvrage, Danny Simmons?
I knew who his brother was, who's a famous clothier and pretty much industry well known.
Il se trouve que je connais son frère, qui est un personnage éminent dans l'industrie du disque. Par ailleurs, ma défunte épouse avait ses entrées dans des galeries d'art. Elle connaissait parfaitement les œuvres de Leroy Jones, il était plus connu sous le nom d'Amiri Baraka. Je l'ai bien connu également. Le concept de marier la musique et la poésie, ce n'était pas une nouveauté pour moi. Quand on m'a proposé ce projet, j'étais déjà très occupé. Cependant, l'un de mes amis qui m'avait mis en relation avec le groupe Tribe Called Quest en 1991 m'avait parlé de l'idée de Danny Simmons de marier les mots d'un poète et les notes d'un jazzman. Comme dans l'univers du hip-hop, je suis sûrement l'un des bassistes les plus samplés. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait à nouveau d'une exploitation de mes œuvres par des rappeurs. Je lui ai tout de même demandé de m'envoyer des extraits des prestations parlées de Danny Simmons sur scène. Je ne suis pas poète, mais le rythme des mots me passionne. Je me suis dit, si Danny Simmons accepte ma vision des choses, nous pourrions nous entendre et faire de la belle musique ensemble. Le producteur m'a donc envoyé quelques extraits de ses performances scéniques, et bien que j'ai été un peu déconcerté au départ, j'ai fini par trouver les bonnes harmonies pour ce projet. Nous avons eu la chance de pouvoir tester notre duo à Brooklyn dans une belle salle de spectacle et nous avons fini par enregistrer nos échanges poético-musicaux. Je n'avais pas réécouté notre prestation depuis facilement un an. Et récemment, j'y ai jeté une oreille et je suis plutôt satisfait. Nous avons créé quelque chose de particulier, je pense.
The toxic Negro crawl engine sputtered fumes. And doom dizzy's blues limping bongo wishes.
Quelle a été votre motivation première pour ce projet? La création musicale ou la dimension sociale et politique du texte lu par Danny Simmons?
J'ai mes opinions politiques, j'ai ma propre vision du monde, mais ce projet étant basé sur la lecture de poèmes tirés d'un livre, mon rôle c'est de servir ce que l'orateur veut déclamer. Je ne fais que souligner musicalement les convictions de l'auteur. Par ailleurs, mon secret espoir, c'est aussi que les rappeurs qui entendront ce disque-là se disent qu'ils feraient mieux de m'appeler plutôt que d'échantillonner mes lignes de basse. Je serais heureux de leur rendre service. Cela leur apporterait un petit plus pour leur propre production.
L'album débute sur un hommage au poète et activiste Ameri Baraka. Est-ce que vous l'avez connu et si oui, est-ce que vous partagiez son combat?
Je l'ai connu alors qu'il s'appelait encore Leroy Jones. C'était un petit bonhomme, mais avec une gigantesque vision du monde. Je comprends que ces mots aient pu susciter un intérêt à un moment où le peuple noir en avait besoin. J'étais heureux de pouvoir poser mes notes de base sur ses pensées. Je n'hésite pas à parler de politique, mais sur ce disque précis, je ne fais que ponctuer les convictions de mon interlocuteur. C'est un peu comme accompagner un chanteur. D'une certaine manière, mon rôle, c'est de rendre sa prestation juste. Et je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti.
Dans les années 50, le mouvement beatnik était une forme de contestation de l'ordre établi. Vous aviez une vingtaine d'années à l'époque. Comment perceviez-vous cette fronde de la jeunesse ?
La situation était totalement différente à l'époque. La société évoluait drastiquement, les émeutes bousculaient l'Amérique, la poésie d'auteurs noirs n'était pas publiée. L'industrie du livre ne s'intéressait pas aux auteurs africains-américains. Par contre, certains grands chanteurs parvenaient à se distinguer. Je pense notamment à Leon Bibb, le père du bluesman Eric Bibb. Je l'ai bien connu à l'époque. Je comprenais l'intention de tous ces artistes, j'essayais de m'améliorer à leur contact. Cependant, et je le répète, les poètes afro-américains n'avaient pas l'expérience exposition médiatique qu'ils ont aujourd'hui. Bien que le mouvement de renaissance noire agitait le quartier de Harlem à New York, des auteurs comme Langston Hughes ou Ralph Ellison, des musiciens comme Duke Ellington, pourtant bien connus dans la communauté noire, ne trouvaient pas d'espace d'expression dans l'Amérique blanche. Mais bon, lorsqu'ils avaient besoin d'un bassiste pour magnifier leurs œuvres, je répondais toujours présent.
Ok, they still need bass. And I'm glad they called me to do some of those things.
Diriez-vous que les personnalités que vous venez de citer étaient vos héros à l'époque? Vous venez de citer Ralph Ellison, Langston Hughes, Duke Ellington. Est-ce qu'ils étaient vos héros?
Well, you know, I was kind of focused on playing better. And I was playing with some good musicians. Later in 1959, I joined Chico Hamilton. So,
je me contentais de me concentrer sur mon jeu de contrebasse pour être le meilleur possible. À l'époque, en 1959, je jouais avec le batteur Chico Hamilton. Mon seul but, c'était de m'améliorer. Je commençais à comprendre le pouvoir de cet instrument, la contrebasse. Plus que sa puissance, c'est son impact sur la musique que nous produisions qui m'intéressait. Je ne savais pas comment créer cette dynamique sonore, mais j'y attachais beaucoup d'importance. N'oubliez pas que j'avais alors 21 ans. J'étais un jeune homme curieux de tout, mais je ne devais pas m'éparpiller. Je me disais que je devais impérativement me concentrer sur la pratique de l'instrument, quitte à refuser des propositions pour jouer dans des clubs. Par conséquent, pour répondre à votre question, mes héros n'étaient pas des personnages, mais des concepts musicaux. Cela dit, plus j'avançais dans ma maîtrise de la contrebasse, plus je me sentais libre pour affronter le monde de la musique et commencer à accepter certaines propositions de musiciens folk. Je comprenais désormais mon rôle d'accompagnateur. Je servais les mots des chanteurs pour que leurs chansons sonnent juste. Progressivement, j'ai multiplié les prestations. Plus je travaillais, plus mon nom circulait dans ce petit milieu du jazz.
And the more I got busy, the more they heard my name around town, and just kind of one hand in another glove.
It's been a long time echo. That sweeter river wine flows upstream. Maiden mama in heels and fancy frills that nuzzle and cling. That's when the dance is done hot and mambo nights, and then a mambo morning. Still sweated and blistered from the rubbing and the whispers. And yet another tome to teach a moment to reveal the burning in. And you were all secret smiles and steamy pants and well-oiled to perfection. Can you feel me on this?
Vous parliez des paroles des chansons. Quand on écoute votre duo avec Danny Simmons, on pense immédiatement à Gil Scott-Heron. Pourquoi, selon vous?
Well, Gil was a real visionary. I mean, he had the language skills of the current generation.
Pour moi, Gil Scott-Heron était un vrai visionnaire. Il avait un vocabulaire très riche. Il savait s'adresser à sa génération. Il savait comment parler à la communauté afro-américaine sans utiliser les mots des journalistes. C'était son talent. C'était un type adorable. Et je suis triste qu'il soit parti si tôt. Ce n'était pas un grand chanteur, mais c'était un grand interprète. Il choisissait les mots adéquats pour marquer les esprits. Prenez « The Revolution Will Not Be Televised ». La première fois que j'ai entendu ce titre, je me suis dit, qui est ce personnage? Comment peut-il dire des choses pareilles de cette manière? Pour être honnête avec vous, il me manque aujourd'hui.
Diriez-vous que vos œuvres traduisent vos opinions politiques, une forme d'activisme musical?
C'est au public de le dire. Je me contente de faire ce que j'ai à faire. En tout cas, je n'utilise pas la scène comme tribune politique. Je pense avoir les mots pour exprimer mes opinions et je fais part de mes convictions politiques, toujours en dehors de la scène. Si nous prenons un café ensemble, peut-être prendrai-je le temps de vous dire ce que je pense de la situation politique actuelle, mais je n'utiliserai pas mes 60 ans d'expérience musicale à la base pour essayer de convaincre un auditoire du bien fondé de mes opinions politiques. Je préfère consacrer mon temps à autre chose.
Alors, je vais essayer de préciser ma question. Est-ce que le fait d'avoir joué avec Eric Dolphy, Monk ou Miles Davis était un acte politique à l'époque?
Absolument pas. Je reconnais que Miles Davis a longtemps joué pour un public majoritairement africain-américain. Je reconnais que Charlie Parker donnait des concerts caritatifs pour la communauté noire. Mais il ne faut jamais oublier que les musiciens de jazz, à l'époque, ont subi cette situation malgré eux. Thelonious Monk ou Eric Dolphy ont été, certes, des artistes visionnaires, mais ils n'ont jamais joué le jeu des politicards. On ne parlait jamais de politique entre nous. Lorsque j'étais dans l'orchestre de Monk, on donnait 3 concerts par soir, donc une moyenne de 15 à 20 concerts par semaine. On se concentrait sur la musique uniquement. J'essayais de lui apporter ce qu'il recherchait, mais nous n'avions absolument pas le temps de parler de politique.
C'est étonnant que vous disiez ça, parce que quand on écoute cette musique-là, des années 60, on se dit justement qu'il y a un discours derrière cette musique-là.
Absolument. Et, you know, all we can do is play the note, and it's up to you to feel what that note represents to you.
Tout à fait, mais je le répète, nous ne faisons que jouer des notes. C'est à vous de leur donner un sens, politique ou non. Certes, il peut m'arriver d'insister sur une note à un moment précis du concert pour essayer de vous faire entendre une intention, mais je n'aurai jamais le contrôle sur le sens que vous donnerez à cette intention artistique. Je ne suis qu'un interprète. Mon but ultime et de vous captiver pour que vous puissiez oublier tout ce qui parasite votre esprit. Lors de mes prestations, je fais en sorte que le répertoire que je présente soit l'expression de mon ressenti sur le moment. Ça n'a rien de politique.
Quand j'ai découvert votre album Dear Miles, je me suis posé plein de questions. Est-ce que vous vouliez rendre hommage à un artiste révolutionnaire, à un virtuose. À qui vouliez-vous rendre hommage finalement à travers Dear Miles?
I think it was a spirit. You know, one reason that I hadn't done one before, I didn't have a library that I thought was equal to his input in music.
Je voulais rendre hommage à un grand esprit. J'ai longtemps tardé à me lancer dans ce projet car l'œuvre de Miles Davis est, à mes yeux, plus riche qu'une bibliothèque tout entière. Il a eu le génie de réunir quatre musiciens autour de lui pour magnifier sa musique. Ce répertoire pouvait être perçu comme politique, car les quatre musiciens que nous étions autour de Miles, quoi qu'en disaient certains, avaient modifié son état d'esprit, son inspiration, ses concepts musicaux. Nous n'étions pas pour autant des révolutionnaires. Herbie, Tony, Wayne et moi-même n'avons jamais considéré être des musiciens révolutionnaires. Nous étions juste différents si l'on nous compare au groupe qu'avait formé Miles Davis auparavant. Il est vrai que nous avions des échanges musicaux parfois très rudes sur scène, et je me plaisais à renforcer cette sensation de dureté car l'époque était rude. Je me souviendrai longtemps de ces quatre petites filles noires brûlées vives dans une église de Birmingham en Alabama en 1963. Nous étions à San Francisco ce jour-là, et nous étions bouleversés et en colère. Quelle devait être notre réaction? Nous ne pouvions imaginer qu'un tel acte de haine puisse se produire. Nous avions une vingtaine d'années. Tony Williams était le plus jeune, il avait 17 ans. Miles était l'aîné. Nous nous demandions comment un homme, quelles que soient ses convictions politiques, pouvait manquer d'autant d'humanité et s'attaquer non seulement à un lieu de culte, mais surtout à de jeunes enfants. Nous restions sans voix et notre seule réaction fut d'aller en studio et d'exprimer nos sentiments à travers la musique. Avec le recul, je me demande comment j'ai pu traverser cette période sans flancher. Peut-être l'insouciance de notre jeunesse, notre vision idéaliste du monde nous a-t-elle épargnés. Après tout, nous étions heureux de jouer avec Miles Davis, ce qui représentait le summum de notre jeune carrière. Mais je dois reconnaître que cet événement dramatique dépassait notre entendement. Aujourd'hui encore, je ne m'en remets pas. Ce n'est pas le genre de choses dont on veut parler. Nous ne comprenons toujours pas l'horreur de cet acte barbare. Le seul exutoire, pour nous, c'était la musique, car elle nous permettait d'expurger tous ces sentiments négatifs. Et finalement, je pense que nous avons produit une très belle musique à l'époque.
Vous tournez actuellement avec le Foresight Quartet. Quel répertoire jouez-vous sur scène? Est-ce que c'est un condensé de votre longue épopée?
Well, some of them are mine. You know, some are kind of standards, what we call standards.
Dans ce répertoire, il y a quelques-unes de mes compositions propres. Nous jouons également des standards de l'histoire du jazz. Disons que ce quartet ajoute un chapitre de plus à mon aventure musicale. Peyton Crossley à la batterie, Donald Vega au piano et Jimmy Green au saxophone me font confiance. Cela est essentiel pour moi. Ils savent que je vais raconter une histoire musicale sur scène en fonction de l'ordre des œuvres que nous interprétons et de la tonalité choisie. Le public reconnaît les titres que nous jouons grâce à mes introductions à la contrebasse. Et cela donne aussi des clés aux musiciens qui m'accompagnent pour qu'ils sachent dans quelle direction je vais. Je dois reconnaître qu'ils sont parfois surpris par certains de mes solos plutôt audacieux qui les embarquent dans une interprétation assez périlleuse. Heureusement, je réussis toujours à revenir à la première note qui détermine le début du morceau.
Sit tight.
Lors du dernier concert que j'ai vu de vous avec le Forsyth Quartet, il y avait toujours des petites allusions qu'il fallait repérer à Miles Davis ou à d'autres artistes avec qui vous avez joué. Est-ce que c'est une manière justement de rappeler le passé?
Yeah, I'm a walking history book. I play with all those guys.
Que je le veuille ou non, je suis désormais un livre d'histoire. J'ai joué avec tous les musiciens que vous avez mentionnés. Ce n'est pas seulement une reconnaissance du rôle qu'ils ont joué dans l'épopée des musiques noires. C'est aussi une révérence à des personnalités qui furent si présentes durant ma propre vie. Quand je fais allusion à certaines de leurs œuvres sur scène, ce n'est pas seulement pour me reposer sur un patrimoine. C'est davantage pour ajouter la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi. C'est aussi une manière d'éduquer le public, d'essayer de lui faire comprendre que le présent repose toujours sur le passé. Et si nous savons interpréter le présent, nous pouvons nous diriger sereinement vers l'avenir.
And if we get it right, we actually plan into the future.
Parliez d'éducation, Ron Carter, vous avez longtemps enseigné l'art du jazz. Quel conseil peut-on donner à un gamin qui cherche véritablement à devenir jazzman?
La première chose que je lui dirais, c'est trouve-toi un bon professeur. J'entends souvent dire qu'il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique, que les musiciens de free jazz dans les années 60 n'avaient de toute façon jamais pris de cours de musique. Ils se laissaient guider par une idée spontanée pour improviser. Je ne suis pas sûr que ce genre de légende serve l'apprentissage d'un jeune musicien. Par ailleurs, la jeune génération a la chance de pouvoir profiter d'un accès immédiat à la musique grâce aux outils numériques d'aujourd'hui. Les jeunes peuvent certes regarder et s'inspirer de vidéos qu'ils trouvent sur Internet, mais ils ne savent pas décrypter ce qu'ils regardent et qui les impressionne tant. Ils ne comprennent pas qu'il a fallu du temps et de l'expérience pour parvenir à l'excellence. Au-delà d'une interprétation fantastique qui épate un jeune devant son ordinateur, il y a une maîtrise parfaite d'un instrument. C'est la raison pour laquelle je conseille aux futurs jazzmen de se trouver un bon professeur. Il y a tant d'esbrouf aujourd'hui et si peu de maîtrise. Il y a tant de musiciens fiers et persuadés d'avoir trouvé leur voix alors qu'ils ne maîtrisent pas complètement le vocabulaire musical. Ce n'est pas avec deux mots que l'on construit une phrase. La première chose que je leur conseillerais, c'est d'essayer de connaître l'histoire de leur instrument. Qui a joué de ces instruments avant eux ? Être un innovateur, ce qui peut arriver parfois, passe par une connaissance parfaite de l'histoire. Ce que vous jouez a peut-être déjà été interprété par d'autres dans le passé. Il faut constamment avoir cet équilibre entre le passé et le présent et la sagesse de comprendre que vous n'êtes pas forcément le premier à tenter telle ou telle expérience.
It may well be, but given the odds of the law of averages, someone already did something like that before. And they kind of keep to have a balance in their heads.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin de chaperons?
It depends how mature they are and what their environment is.
Tout dépend de leur maturité et dans quel environnement ils évoluent. Il n'est pas inutile d'avoir à ses côtés quelqu'un qui pourra répondre à vos questions. C'est ce que j'appelle un professeur. Par définition, il aura suffisamment vécu pour transmettre son savoir et pouvoir expliquer aux jeunes apprentis ce que tel ou tel instrument peut produire. L'expérience des aînés apporte un plus à la pratique de l'instrument. Pouvoir dire à un jeune ce que Coleman Hawkins, Sonny Stitt ou Lester Young ont apporté à la musique fait aussi partie de l'apprentissage. Il est important qu'un aîné puisse apporter une dimension patrimoniale pour que le jeune talent comprenne que ce qu'il pense inventer a, par exemple, été joué 8 ans plus tôt par un autre artiste.
Est-ce que vous aviez des chaperons vous-même?
J'avais autour de moi des gens que je considérais comme spéciaux. Je ne les voyais pas comme des mentors, mais j'étais épaté par des musiciens comme J.J. Johnson, par exemple, qui jouait le trombone comme personne, ou Cecil Payne, avec qui j'ai travaillé pendant près d'un an dans l'orchestre de Randy Weston. Il jouait sur le même saxophone que Harry Carney et Pepper Adams. Personne n'a su reproduire le son de Cecil Payne. Je pense la même chose de J.J. Johnson, sa maîtrise du trombone était exceptionnelle. J'ai donc toujours essayé de faire en sorte que mon son de basse soit mon identité musicale. En d'autres mots, j'essaye depuis des décennies de trouver ma signature musicale. Avoir une contrebasse entre les mains est une chose, encore faut-il savoir si votre jeu reflète votre personnalité. Voilà pourquoi je considère Cecil Payne et J.J. Johnson comme des références. Je ne pourrais pas dire qu'ils étaient mes mentors, car à l'époque, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de jeunes musiciens comme moi. Il n'y avait pas d'école de musique pour les Noirs américains, et les seuls professeurs que nous aurions pu avoir étaient constamment sur la route. Ils donnaient des concerts aux quatre coins du pays dans des conditions particulièrement difficiles. Ray Brown ou Oscar Peterson, qui étaient de bons amis, ne se croisaient qu'une fois tous les 6 mois. Un jour, ils étaient dans l'Iowa, le lendemain dans le Michigan. Il était difficile de faire appel à un aîné pour apprendre la musique. Heureusement, tout cela a changé aujourd'hui. De temps en temps, je reçois un email d'un jeune qui cherche à parfaire ses connaissances musicales. En général, je lui demande de m'envoyer une liste de 10 choses qu'il aimerait que je lui enseigne. La plupart du temps, je réduis cette liste à 5 priorités. Et lorsqu'il passe me voir à la maison, nous nous concentrons sur ces 5 questions essentielles.
You write 10 things that you think you need my help and circle the top 5. And then come by my house, we'll talk about those top 5 things.
Après 2500 enregistrements, que vous reste-t-il à prouver, Ron Carter?
Oh man, the horizon is still waiting for me. You know, I've done a couple of Bach.
Vous savez, l'horizon est encore bien loin. Je peux cependant vous dire que je viens de finir la préparation d'un projet discographique consacré à Jean-Sébastien Bach. Il y aura des suites pour violoncelle, des arrangements pour orchestration symphonique. J'envisage aussi un projet avec 6 à 8 contrebassistes, mais mon but ultime, si un jour je deviens célèbre, serait de remplacer la voix humaine dans des motets de Bach par une contrebasse. J'ai donc encore du chemin à faire, mais j'y arriverai. Tant que Jean-Sébastien Bach lui-même ne vient pas toquer à la porte, tout ira bien.
Merci beaucoup, Ron Carter, de nous avoir accordé ces quelques minutes.
I'm not sure how you shake hands on radio, but if they could see me, that's what I'm doing right now.
Thank you.
Je ne sais pas comment on sonorise à la radio une bonne poignée de main, mais c'est ce que je suis en train de faire actuellement.
C'est sur cette exclusivité offerte par Ron Carter de son prochain album Foresight Stockholm Volume 1 à paraître en novembre que nous allons nous quitter. Merci à l'équipe de Jazz Asset d'avoir œuvré pour cette rencontre inédite avec un géant du jazz. Merci à Laurie Plisson pour les prises de son sans climatisation dans la fournaise du Grand Hôtel de Sète. Et merci à Nathalie Laporte pour la réalisation caniculaire et estivale à Paris. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.